Chers frères et sœurs,
nous ne sommes plus au premier siècle après Jésus-Christ, et lors de ce premier siècle, il y avait une telle fascination pour le Seigneur qu'on pensait qu'il allait revenir incessamment, qu'on allait le retrouver. Et puis le Christ n'est pas venu. Et voici 2000 ans qu'il n'est pas venu. Et nous avons perdu quelque chose de cette attente impatiente des premiers siècles. Et il conviendrait que nous en retrouvions quelque chose. Car comment s'appelle cette venue du Seigneur à la fin des temps? Eh bien, parousie. Alors c'est un terme grec un peu compliqué. Et qu'est-ce que c'était que la parousie? C'était la visite d'un grand personnage dans une cité pour la combler de ses bienfaits, pour montrer sa magnificence. Voilà ce qu'est la parousie et voilà ce qu'elle sera. Cette venue du Seigneur dans sa cité pour la combler de ses bienfaits. La première venue du Seigneur, c'était pour nous donner le salut à travers ce petit enfant, puis cet homme qui meurt pour nous sur la croix et qui ressuscite. Eh bien, cet ultime avènement à la fin des temps du Seigneur, ce sera une autre façon de nous combler de ses bienfaits, mais avec une plénitude absolument inouïe. Il y aura à ce moment-là la fin de tout malheur, la paix définitive, toute larme asséchée, toute blessure guérie. Alors, nous sommes censés, bien sûr, désirer ce jour du Seigneur, j'y reviendrai, mais n'oublions pas que c'est d'abord Dieu qui désire ce jour-là, qui désire cet avènement. Cet avènement du Seigneur, c'est le fruit du désir de Dieu d'une intimité nouvelle entre lui et nous, intimité infiniment respectueuse. Nous le chanterons dans le choral du retour du Seigneur. Quand le Christ, ton bien-aimé, dans sa chair t'épousera. Et c'est cela. Et quand nous écoutons l'Évangile, on peut se demander, mais finalement, ça ne ressemble pas tellement à ça. Parce qu'à quoi est comparée la parousie? Elle est comparée au déluge. C'est quand même pas très sympathique. Elle est comparée à un filet qui s'abat dans l'évangile de saint Matthieu, un filet d'oiseleurs qui s'abat sur les oiseaux qui sont là pour les capturer, dont on ne peut pas échapper. Alors, lisons un peu plus profondément l'évangile du jour pour y discerner la bienveillance de Dieu. Le Seigneur dit « L'un sera pris, l'autre laissé ». Ça veut dire « ça ne sera pas une punition collective ». C'est-à-dire que la justice de Dieu s'adaptera à chacun et lui proposera le sort qui lui revient. Voilà, il n'y a pas d'arbitraire, il n'y a pas un jugement en masse, mais une réponse personnelle dans cette parousie à chacun d'entre nous. Alors il n'y a pas à la craindre. Il semble même que le Seigneur ne cesse d'anticiper ce moment, ne cesse de venir à nous en attendant ce jour du Seigneur à la fin des temps. Il me plaît d'évoquer le cardinal Ratzinger qui évoquait toute la liturgie en ces termes. La liturgie, c'est le Seigneur qui vient à nous. Dans notre baptême, dans le sacrement de la réconciliation, et plus encore dans cette Eucharistie, le Seigneur, à l'appel du prêtre, va se rendre présent avec son corps, son âme et sa divinité, aussi présent, mais voilé, qu'il le sera à la fin des temps. Voilà ce qui nous est donné. Le Seigneur s'approche en ce moment de notre assemblée, pas à pas. Nous pouvons en dire autant également de la prière, de notre lecture de la Bible. La lecture de la Bible, c'est comme tracer un chemin pour que le Seigneur puisse venir à nous, Saint Bernard de Clairvaux en avait une intime conscience en disant qu'il se préparait ainsi en lui aux avènements du Seigneur. J'aimerais aller plus loin, chers frères et sœurs, pour dire en fait que ce sont toutes nos vies qui sont comme l'occasion pour le Seigneur de faire des pas vers nous. Chaque événement heureux ou malheureux, chacune des rencontres, eh bien c'est un pas du Seigneur vers nous si nous l'acceptons de la vivre de cette façon-là. En termes bibliques, comment cela s'appelle-t-il ? Ce sont les visites de Dieu, un terme très important. Les visites de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était les réjouissances, la venue d'un enfant, une victoire, mais aussi une souffrance, mais aussi un châtiment, mais aussi l'exil. Parce qu'il y avait l'intime conviction qu'en tout cela, le Seigneur poursuivait son dessein de s'approcher de son peuple. Le psychiatre Viktor Frankl en avait fait, un juif, la substance de sa doctrine et de sa thérapie. Il demandait de faire une relecture de sa vie pour y voir justement ce sens, c'est-à-dire ce Seigneur qui s'approche. Il le disait en termes laïques, bien évidemment, mais on sentait profondément la tripe biblique à travers tout ce qu'il pouvait nous dire. Il nous disait « Arrivez-vous, parvenez-vous à voir la persistance du dessein bienveillant de Dieu sur ma vie ?» Ça, parfois dans les larmes, parfois dans la souffrance, mais c'est un travail que nous avons à faire. Et puis, jusqu'au dernier moment de notre vie qui est la mort, comme ultime visite de Dieu, à préparer aussi. Pour finir, chers frères et sœurs, une dernière chose, Dieu ne veut rien nous imposer. Pas même sa présence, pas même la plénitude de sa gloire à la fin des temps. Il nous dit, je désire ce moment, mais toi, le désires-tu ? Désires-tu qu'il advienne ? Désires-tu toi aussi que Dieu soit tout en tous ? C'est ce que nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Le salut est plus près de vous qu'au moment où vous êtes devenus croyants. C'est pourquoi rejetons les œuvres de ténèbres, revêtez les armes de lumière. Ce salut est proche. Et quand on voit un événement favorable se rapprocher de nous, peut-être la visite d'un ami, d'un parent qui nous est cher, nous n'avons qu'une idée, hâter cette venue. Et pour cela, saint Paul dit, ne retardez pas ce moment par votre inconduite, par votre négligence, par votre somnolence, par ces œuvres de ténèbres. Tout cela met le Seigneur à distance. Et nous avons trop perdu cette perception. Saint Paul nous dit en fait, à travers tout cela, réappropriez-vous le pouvoir que vous avez sur le temps. Votre attente de la parousie n'est pas que pure passivité. Vous avez le moyen de la hâter. Je prends un exemple. Pour bien des raisons, nous désirons aujourd'hui qu'une paix, une paix juste bien évidemment, soit signée à l'est de l'Europe. Et nous voudrions pouvoir peser pour que ce processus aboutisse au plus tôt et dans la justice. Eh bien, c'est la même chose. Avec cette paix définitive de la fin des temps, cette bénédiction en plénitude sur le monde, ce shalom comme on dit, nous avons moyen, nous avons pouvoir de peser sur son avènement. Dieu nous associe à ce point, à son gouvernement. Nos bonnes actions, c'est très bien. Nos apostolats, notre rectitude de vie vont avoir un impact immédiat. Mais n'oublions pas qu'ils sont aussi participation au gouvernement divin, à cet avènement de cette paix en plénitude de ce jour du Seigneur. Extraordinaire vision de la vie morale, de la vie chrétienne, qui nous fait participer au gouvernement du monde. Ces vérités sont neuves, peut-être, pour moi aussi, peu évoquées, mais elles font partie de l'Écriture. Il nous faut les méditer. Il nous faut en être vivifiés. Que Notre-Dame de l'attente, Notre-Dame de l'avant, nous y aide.